Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Voici un roman noir qui n'étonnera pas les lecteurs de ce grand auteur catalan, mais aussi une véritable comédie humaine qui se déroule sur trois générations avec comme fil conducteur deux personnes, deux seniors qui, au-delà des douleurs, des échecs, des remords, vont découvrir sur le tard le plaisir de vivre, d'aimer et d'être aimé. C'est un roman dont les multiples acteurs dessinent une fresque dont la construction ne laisse pas d'étonner tant elle est remarquablement menée jusqu'à une fin où la boucle est bouclée. Il s'agit de « Par-delà la pluie », publié chez Actes Sud, et je suis très heureuse d'accueillir son auteur Victor Del Arbol. Et j'ajouterai que je suis très heureuse de recevoir Alain Filola, figure très connue de Toulouse, de Balma et de ses environs, qui a accepté comme ça, au débeauté, de venir être l'interprète de Victor Del Arbol. Merci Alain.
Avec plaisir.
Alors, merci Victor d'être venu de loin, vous, et de nous apporter cet ouvrage. Alors, il s'agit de deux personnes âgées, que vous avez choisi de personnes âgées comme personnages principaux. Est-ce que, vous savez, il y a Ingmar Bergman, le cinéaste, disait sur la vieillesse qu'on a une vision élargie sur le temps, l'espace et les événements. C'est le cas ?
C'est le cas, oui. Bonsoir, bonjour. Je dirais quelques mots en français, après je vais passer à l'espagnol. Il y a aussi un grand poète polonais, Mislav, qui sort dans les romans, qui était prix Nobel à l'année 80, 1980, je pense, qui a un très bel poème qui se dit « Nabi Eros ». Donc, son dernier vers, il dit, à propos de la vieillesse, il dit « Il était content de partir avec sa mémoire ». Donc, pour moi, ça c'est le début et les fins, hein, finalement, de les romans. Et la cause pour laquelle j'ai fait le choix de ce qu'on dit la quatrième âge ou la troisième âge, je ne sais
troisième,
pas.
Quatrième.
Ça. Donc, voilà.
Alors, justement, merci de commencer par parler de la mémoire, parce qu'il y a plusieurs sortes de mémoires dans votre ouvrage. Il y a déjà la mémoire de la guerre civile et de ses traumatismes. Mmh. Et vous en parlez, et vos personnages sont marqués par cette guerre.
Si, bueno, cualquiera que sea español está marcado por la guerra civil.
Tout espagnol est marqué par la guerre civile.
Et al mismo tiempo que esta novela habla sobre
en même temps que cet ouvrage parle de la construction de la mémoire individuelle,
parle de la construction de
la mémoire collective.
Et chaque pays, chaque société
a sa propre mythologie par rapport à ça. Et la guerre civile d'Espagne fait partie de notre mythologie.
Oui, d'autant qu'une guerre civile, c'est toujours encore plus difficile à digérer, je dirais.
Oui, parce que, pardon, si, porque una guerra civil.
Une guerre civile ne peut pas s'identifier par rapport à un ennemi, parce que l'ennemi, c'est nous-mêmes, c'est les nôtres.
Ça peut être la famille, les voisins.
Voilà, exactement.
Et
ça laisse des cicatrices qui se transmettent de génération en génération.
Alors, il y a la mémoire de l'enfance aussi. Et là, votre livre commence par une scène terrible. Une scène qui met en scène, la petite Elena. Alors, on voit les déchirements des parents, les excès, les fautes. C'est un traité même de la non-éducation. Comment ne pas éduquer ses enfants? Mais les enfants spectateurs, victimes des parents et même des grands-parents, ça, vous en parlez énormément dans votre livre, on le voit.
Sí, creo que a mí hay dos yo tengo dos obsesiones en la vida y en la
Moi j'ai deux obsessions dans la vie et dans ma vie. C'est la première, c'est la construction de l'identité au travers de la mémoire, et la seconde, les voleurs d'enfance, ce que j'appelle les voleurs d'enfance. Parce que notre enfance, c'est nos racines qui nous construisent.
La base.
Et par rapport à ces racines, pour que ces racines soient là, il faut qu'il y ait de l'amour, de la confiance vis-à-vis des gens qui nous protègent. Ceux qui doivent nous protéger nous font du mal, ben ça nous met en difficulté, ça nous invalide par rapport à autrui.
Alors, il y a les pères absents pour différentes raisons. Tous les deux pères Je dis les deux pères parce qu'il s'agit de deux personnages centraux, Elena et Miguel. Mmh. Mais leurs pères ont été absents. Et finalement, il me semble que pour l'un, c'est plus grave que pour l'autre, cette absence. Non ?
Je pense que c'est pareil pour les deux. L'absence du père est très dure, très dure pour un fils. L'absence, ce qui se passe, c'est que l'absence, c'est pour des causes différentes. Dans le cas de Miguel, l'absence du père, c'est parce que le père préfère ses idéaux à sa famille.
Et dans le cas d'Elena, c'est parce que son père préfère.
Et dans le cas d'Hélène, c'est que son père préfère l'amour à la famille.
Oui.
Et ce sont deux formes d'égoïsme différentes, mais ça reste deux formes d'égoïsme.
Oui, mais en même temps, j'ai cru comprendre que Miguel finissait par avoir une admiration pour son père, qui est un héros, finalement, d'une certaine manière, aux yeux d'une partie de la population.
Je pense que non. J'ai beaucoup parlé avec Miguel et je pense que non. Il n'admire pas son père. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin de ses jours, et ça nous arrive à tous, et ça nous arrivera, il a besoin d'être en paix avec son père. Et ça, nous pouvons l'expliquer parce que c'est que son père est un fantasme, son père est un fantôme. Le père de Miguel est un personnage qui apparaît dans l'œuvre comme un fantasme.
Victor Dellalbol, il y a une chose qui m'interpelle. Vous venez de dire, j'ai beaucoup parlé avec Miguel. Miguel existe ? Ou c'est vous qui avez beaucoup réfléchi ?
Lui ne crée jamais de personnage. Il est le biographe de ces personnages. Comme disait Philippe Roth, c'est des personnes
que chaque construit avec des mots.
Le dialogue que j'ai avec ces personnages-là, il est permanent parce que je ne suis pas toujours d'accord avec eux.
Mm-hmm. Oui. Et vous mettez à leur place, vous essayez de comprendre de cette manière-là.
La littérature, c'est un exercice d'empathie.
Tout à fait. C'est difficile pour un écrivain d'avoir toutes ses vies.
C'est très gratifiant de se mettre dans la peau d'un autre, de quelqu'un d'autre en permanence. Il a appris plus en construisant le personnage de Miguel qu'en construisant le personnage d'Elena. Parce qu'avec Elena, il est totalement identifié.
Oui. Il y a le rôle des mères également. Alors là aussi, on voit quand même que Miguel et Elena ont eu des parents qui n'ont pas été forcément à la hauteur. Disons qu'elles ont causé elles aussi des traumatismes différents. Thelma.
J'ai une question pour toi.
Il a une question à te poser.
Oui.
Ou pour les oyentes.
Quand les pères se trouvent à la hauteur qu'espèrent les enfants. Il dit, il y a une étape dans la vie que les pères, à un moment ou un autre, déçoivent leurs enfants. Et dans le cas de Miguel et d'Hélène, c'est évident, ils utilisent leur père comme excuse de leurs propres faiblesses, de leurs propres échecs. Jusqu'à ce qu'ils décident de se confronter à la réalité. Et que chacun est maître de ses certitudes et de ses échecs et de ses erreurs.
Oui, c'est ça le travail de mémoire. Mais quand vous dites chacun essaie de se confronter à ses certitudes et à la réalité, c'est quand même plus facile de mener à bien sa vie quand on a des bases solides.
Mais eux, ce n'est pas leur cas. Eux, ils doivent construire leur identité à partir de l'absence. Et chacun d'eux choisit une stratégie différente. Miguel a préféré oublier ses parents et son passé. Alors qu'Elena a accepté ce passé et a construit sa propre identité librement.
On va parler de ces deux personnages qui ont des tempéraments très différents et des personnages intéressants, justement, qui ont une épaisseur dans votre roman. Mais avant, le rôle de la mère, le rôle des mères. Alors là, il y en a une qui oublie sa fille et qui même veut la tuer, qui, qui fait une dépression telle qu'elle se tue, qu'elle se noie et qu'elle veut emporter sa fille, c'est évidemment un traumatisme pour l'enfant qui s'en sort. Et l'autre mère, elle, qui va faire vivre à son fils quelque chose de difficile aussi. Et pourtant, il fallait faire ça.
Mais ce sont deux formes de folie très ressemblantes, très proches. Dans le cas d'Hélène, la folie arrive avec l'abandon de son mari. Et dans le cas de la mère de Miguel, oui, c'est plus difficile. Dans le cas de la mère de Miguel, c'est plus difficile. Mais cette folie vient aussi par la perte, est liée aussi à la perte de son mari. La mère de Miguel, il veut faire un commentaire très particulier. La mère de Miguel.
Elle exprime une histoire jamais racontée en Espagne.
Voilà.
Qui est,
l'histoire des femmes de la guerre, de la guerre civile.
Oui, qui ont dû, pour survivre,
quand la guerre civile s'est achevée en Espagne, Espagne était, il y avait énormément de femmes veuves,
oui, seules,
avec des enfants en bas âge,
sans travail.
Les maris étaient partis ou ils étaient morts.
Oui.
Et beaucoup de ces femmes ont dû se prostituer pour subvenir aux besoins de leurs enfants et pour élever leurs enfants. Ces histoires dont les familles sont remplies de honte. Et ça existait, c'était vrai, et ça lui paraît important de le raconter. Alors que la mère d'Hélène est une bourgeoise. Et sa folie est, si on lui permet l'expression, c'est une folie intellectuelle. Elle ne comprend pas comment son mari peut l'abandonner pour partir avec un homme. C'est des folies différentes.
Oui. Alors, deux jeunesses saccagées, et on voit que leur vie d'adulte elle-même va être ratée. Miguel comme Elena vont rater leur mariage, leur vie maritale. Et on parlera ensuite de leurs enfants. Alors, je me suis dit, il y a une sorte d'hérédité, de fatalité presque, dans votre livre.
Me gusta pensar que escribo tragedias griegas.
Tragedias?
Griegas.
Oui, il se plaît à penser qu'il écrit des tragédies grecques.
C'est-à-dire, el héroe contra su destino, non?
Sí, voilà.
C'est l'héroe contre le destin.
Voilà.
Creo que hay que ser muy valiente.
Il faut être très, très héroïque, très, très valiente et fort pour rompre avec son destin. Parce que la société espagnole fonctionnait comme fonctionnaient les sociétés médiévales, c'est-à-dire qu'on reproduit le modèle de ses parents chacun et le modèle de ses parents.
Oui, en France c'était pareil.
Et en France c'était pareil. Et oser rompre ce cycle-là,
C'est
héroïque. Et on va voir que cet héroïsme va s'effectuer, mais vraiment à la fin de leur vie, dans la dernière partie de leur vie, au troisième, quatrième âge, j'en sais rien, parce qu'il va y avoir cette rencontre improbable dans une maison de retraite. Quand je dis improbable, ce sont deux personnages tellement différents.
Claro. Lo que nos atrae es lo opuesto.
Ce qui nous arrive, c'est toujours ce qui nous oppose, le contraire. L'image qui lui vient à l'esprit concernant Miguel et Hélène, c'est celle de deux chiens abandonnés dans la rue qui se rencontrent, qui se reniflent. Et qui, comme ça, à première vue, sont très différents, mais au final, en fait, ils sont identiques.
Au début, ça pourrait être presque chien et chat.
Dans ce cas, le chien, ce serait Elena et le chat, ce serait Miguel.
Peut-être. Voilà. Alors, une parenthèse, là, parce que votre livre donne au lecteur une chance incroyable, parce qu'il y a deux livres en un. Il y a à la fois des propos sur la vieillesse, et puis il y a ce roman noir, et on connaît vos romans qui sont noirs, qui sont des romans. Et là, il y a toute une partie qui est très intéressante. Alors, on dit que c'est à la mode maintenant. Je ne suis pas d'accord parce que je lis beaucoup. Et puis, il y a peu de livres encore sur ce troisième ou quatrième âge qui existe et qui va même se répandre, je crois. Alors, d'abord, vous nous faites entrer dans une maison de retraite. Et alors là, il y a un regard plein d'ironie, d'humour même, sur cette maison de retraite. Mmh. Vous en connaissez ?
J'ai vécu plusieurs mois dans une résidence de personnes âgées.
Et
il connaît bien la maladie d'Alzheimer.
Et ce qu'il a remarqué,
c'est que quelqu'un qui est adulte est traité comme un enfant.
Et c'est ironique.
Oui.
C'est ironique.
Oui.
Porque resulta que l'expérience,
le vécu ne sert pas à grand-chose aujourd'hui.
Aujourd'hui,
ce qui prime, c'est la force, l'innovation. Et tout ce qui sent le vieux, on l'écarte.
L'ironie vient d'un poème
qu'il a lu d'un grand poète espagnol qui s'appelle Quevedo.
Qui parle de la vieillesse.
Parlant de la vieillesse, nous désirons tous devenir vieux. Mais personne ne veut reconnaître quand il est vieux qu'il est vieux. C'est comme si l'on voulait fermer les yeux devant notre destin, devant ce qui nous attend.
Nous sommes des personnes
majeures, adultes, avec des comportements infantiles. Tout nous fait peur. Nous prenons des cachets pour à peu près tout.
Et plus on vieillit, plus la vie nous fait peur. Et Hélène,
elle se rebelle contre ça.
Oui, voilà. Hélène, c'est la rebelle, la révoltée. Elle est courageuse. Elle a un caractère terrible.
Elle est un peu anglaise, flegmatique.
Et elle est très intelligente.
Et comme elle est très intelligente, elle a un grand sens de l'humour.
Oui.
Pero detrás de ese sentido del humor está un poco esa imagen de Pavarotti, del Pagliaccio. ¿Os acordáis de?
Y derrière cette, dime otra vez
de Pavarotti.
Oui.
Que canta Pavarotti, el payaso.
Oui.
L'opéra de
C'est quel opéra?
Oui. Pagliaccio.
Payaso. Oui.
El payaso es el que ríe por fuera y llora por dentro.
Payaso es celui qui rit en public mais qui pleure au fond de lui.
Parce que c'est un personnage très intéressant parce qu'elle est courageuse, elle aime, c'est là où on trouve qu'elle est jeune, elle est âgée, mais elle aime ce qui est original, qui est incorrect. Par exemple, le professeur Marquez.
C'est un personnage adorable.
Voilà. Et ça va être l'élève indomptable de cette maison de retraite. Mmh. Alors, elle a toujours de nouvelles idées, des idées même de partir. Mmh. On va le voir. Mais quant à lui, Miguel, il est très sérieux. Je dirais trop sérieux, trop sage. Mmh.
Lâche.
Un peu lâche aussi.
Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Peut-être qu'il a peur de souffrir.
Moi, je crois qu'entre Hélène et Miguel, il y a une différence fondamentale. Les deux ont un passé qui se ressemble, mais les stratégies qu'ils ont développées dans leur vie sont totalement différentes.
Hélène
a vécu la vie et Miguel a survécu.
Miguel es un señor que yo imagino.
Miguel est un banquier à la retraite.
Qui pense qu'il ne peut pas y avoir
de sursaut dans la vie, que la vie est linéaire.
Que la vie c'est aller de l'origine à la destination.
Voilà.
Et par contre, Hélène, elle pense que la vie c'est l'inattendu.
Oui.
L'aventure.
C'est ça. Oui.
Non.
Elle ose.
Ouais. Exactement.
Exactement. Justement, vous parliez tout à l'heure de la place des personnes âgées dans la société. Or, ils ont testé les trois formes, à savoir la maison de retraite en dernier ressort, chez soi, avec les difficultés que ça engendre, chez ses enfants, avec les difficultés que ça engendre. Il n'y a plus de place, sinon partir.
Non, la plaza que
la place que je crois, moi, quand Miguel et Hélène, c'est se respecter à soi-même. Et je le répète souvent, et si je le répète souvent, c'est que je le pense vraiment. Ce qui nous fait vieillir, ce n'est pas les années, c'est la peur. Et Miguel et Hélène, ce à quoi ils aspirent, c'est avoir une vie comme tout le monde. Revendiquer leur droit à l'aventure, à l'amour, au sexe.
Est-ce que vous dites c'est la peur qui fait vieillir? Est-ce que ce n'est pas l'absence de projet aussi?
Ça, c'est la peur.
La
peur, c'est l'architecte des murs. Belle formule. La peur, c'est ce qui te dit ce que tu ne peux pas faire. Et ça n'est pas propre à la vieillesse. Ça, c'est ce que l'on trouve chez n'importe quelle personne et à n'importe quel âge. Si quelqu'un dit « j'ai plus l'âge de faire telle chose », en fait, ça n'est pas, c'est pas un problème d'âge, c'est parce qu'il a peur de faire cette chose-là.
Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est également l'image qui est renvoyée par la société? Inutilité, dévalorisation
Ce roman, ce n'est pas un road movie par circonstances. Ce qu'il a essayé de montrer, c'est qu'Hélène et Miguel croisent une société où les gens sont seuls. Comme ils rencontrent en permanence des personnages qui sont jeunes, qui ont du succès professionnel, mais tous sont malheureux. Et tous sont seuls. Et je crois, dit-il, que c'est le grand problème de la société occidentale. On vit face à un miroir qui ne nous reflète pas la réalité.
Oui. Alors, Miguel a en plus une épée de Damoclès, puisqu'il a un début de maladie d'Alzheimer, et très lucidement, il veut profiter de ses derniers moments de lucidité. Et quant à elle, elle veut cesser, je vous cite, de regarder passer la vie. Elle veut revivre parce qu'elle elle va exploser dans cette maison de retraite. Donc, vous dites, c'est un road movie. Oui, c'est un road movie. J'ai pensé, parce que vous avez choisi le prénom de Thelma à un moment donné. J'ai pensé à Thelma
et Louise.
Évidemment, on pense tous à Thelma et Louise qui ont fait un road movie pour échapper à la société, justement.
Voilà.
Tu sais ce qui se passe? Moi, je me suis toujours demandé si les personnes... Est-ce que nous cherchons quelque chose ou est-ce que nous fuyons quelque chose?
Et
Miguel et Hélène, ils ne fuient rien. Ils cherchent une nouvelle vie.
Oui, c'est ça. Ils veulent tourner une page aussi.
Exactement.
On fait une pause musicale et on va écouter quelque chose de très, très, très positif. On va aimer un crooner, Frank Sinatra. Et voilà pourquoi. Dites-nous pourquoi j'ai choisi cette chanson.
D'abord parce que moi j'adore cette chanson.
Mais moi aussi, justement.
Et
c'est le moment le plus romantique de tout le roman.
Voilà, c'est effectivement Elena avec son amie Louise et qui aime beaucoup la chanson de Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Fly Me to the Moon. On va l'écouter.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,
sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words,
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, nous venons d'entendre un crooner qui n'était pas un enfant de cœur, ceci dit. Hein. Il avait des relations avec la mafia qui n'était pas très catholique, ouais, on dira. Ouais. Alors, il chantait, c'était une chanson fétiche pour le personnage, puisque les deux personnages centraux, ce sont quand même Miguel et Elena, hein, tous les deux que nous suivons tout au cours du livre. Et c'est vrai qu'on s'attache beaucoup à ces deux personnages si différents, et on se retrouve en effet en eux. Parce que sur la vieillesse, on en a parlé, l'image qui renvoyait, la place dans la société, cette maladie également qui inquiète tout le monde. Mmh. Passer un certain âge, tout le monde, parce qu'autour de nous, on voit apparaître cette maladie, et du temps de nos parents, on ne connaissait pas. Hmm. Peut-être parce qu'ils mouraient plus jeunes, peut-être, je ne sais pas. On parle de l'angoisse de la proximité de la mort, et oui, il y a ça aussi, qui voit. Mais en fait, cette décision de partir, c'est une décision de vie.
Si.
Pour vivre, chacun doit être conscient de la fin de la vie, de sa propre fin de vie. Et si l'on était immortel, la vie n'aurait aucun goût, aucun sens et aucun intérêt. Et Elena et Miguel, ce qu'ils ont surtout, c'est qu'ils sont pressés de vivre. Parce que du coup, ils se sentent libres.
Et parce qu'ils sont seuls aussi.
Ils
n'ont pas de compagnon, de conjoint.
Miguel, il est très dépendant de sa fille Natalia, par exemple.
Oh, on en parlera, oui.
Pero, sin embargo, entiende algo muy
par contre, ils sont empreints de quelque chose, d'une certitude, c'est que chacun est responsable de sa propre liberté. Souvent, on ne fait pas des choses parce que, sous prétexte qu'il faut protéger la famille, les enfants.
Et
ça, c'est de l'égoïsme.
Parce qu'il faut laisser chacun. De l'héroïsme, pardon.
Oui, je finis. Parce qu'il faut laisser chacun suivre son propre chemin.
Quand on a des enfants, ça dépend de quel âge on parle.
Elena, elle a 40 ans.
Eh oui, voilà.
Ah, pardon, Natalia.
Natalia, elle a 40 ans.
Lo que pasa es que, yo tengo 50.
Moi, j'ai 50 ans, mais ma mère, elle me voit toujours comme quand j'avais 10 ans.
Oui, c'est vrai.
Miguel entiende que tiene.
Miguel, il comprend qu'il doit sauver sa fille de cet homme qui la maltraite. Mais par contre, Hélène, ce qu'elle apprend à Miguel, c'est qu'il doit vivre sa propre vie.
Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que tous les deux vont vouloir faire le bilan de leur vie et tirer un trait, oui, mais en essayant de modifier, en essayant d'améliorer les choses. Justement, Miguel avec sa fille, mmh, et Elena d'une manière plus aléatoire avec son fils, mmh, dont on apprendra qu'il n'est pas vraiment son fils. Mais ils veulent peut-être régler quand même certaines choses pour leur propre conscience, mmh, parce qu'il y a un remords chez eux. Mmh. Le remords existe, net, bel et bien.
Ce voyage que font Miguel et Elena, en fait, c'est aller vers un objectif. Et en même temps, c'est une tentative de réparer le passé. C'est-à-dire, pour être heureux, chacun doit se mettre en paix avec ce qu'il est. Et ça, c'est la difficulté à laquelle la plus difficile à laquelle un être humain peut être confronté.
Accepter
ce que l'on est. Ne pas se juger trop sévèrement,
sino aceptar que uno,
mais accepter que chacun peut avoir des peurs,
que uno no es perfecto,
et qu'on peut ne pas être parfait, et que dans la vie, on a pu faire des choses dont on n'est pas très fier.
Oui, mais justement, on voit quand même une forme de grand courage chez Miguel, finalement. Au début, on a dit qu'il était lâche, mais là, est-ce que c'est la rencontre avec Elena? Il va affronter des personnes avec lesquelles les choses n'étaient pas claires. Il y a Carmen, il y a sa fille et même son père. Donc, il veut un peu faire le bilan et essayer, même s'il est mal reçu. C'est une forme de courage d'aller vers l'autre et dire, voilà, ben voilà ce que j'ai fait, voilà, de se montrer tel qu'il est.
Si.
Hélène, elle donne une leçon de vie très importante à Miguel.
Ouais.
Et pour montrer la fragilité de la vie, il faut être très courageux. Moi, je n'aime pas les héros. Moi, j'aime les gens normaux qui font des choses héroïques. Et Miguel le fait. Il est capable de s'affronter et de se confronter à son passé. Sans haine. Et sans culpabilité. Les dialogues entre Miguel et son père sont merveilleux. Le père de Miguel, en fait, est plus jeune que Miguel.
Il est mort.
Et cela veut dire que, effectivement, Miguel sait plus de choses de la vie que n'en savait son père. Mais son père sait plus de choses de la mort. Et ces dialogues entre eux sont très intéressants. Jusqu'à ce que Miguel apprenne à se pardonner à lui-même, à soi-même. Le pardon, ça n'est pas quelque chose que les autrui doivent nous attribuer. Le pardon, ça doit sortir de nous-mêmes. Peu importe ce que les autres pensent de nous-mêmes.
Lo que importa es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos.
Mais Victor, quand même, l'opinion de sa fille a de l'importance pour lui, malgré tout.
Et su hija.
C'est sa fille. Et une fille, c'est pour toute la vie, un enfant.
Et puis il a une forme de responsabilité.
Le dilemme auquel est confronté Miguel, c'est que toute sa vie, il a respecté la loi. Il a toujours respecté les règles.
Et
il s'aperçoit que pour aider sa fille, il faut qu'il coupe avec tout ce à quoi il a cru.
Il était très conformiste.
Et par contre, quand quelqu'un trouve une raison, il est capable de changer. Miguel est capable de renoncer à tout ce à quoi il a cru durant toute sa vie. Pour aider sa fille.
Oui.
Thank you.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
C'est une belle rencontre entre Miguel et Elena, parce que on n'aurait pas cru. Et en fait, chacun apporte justement ses défauts et ses qualités.
Si. Además, hay una
en plus, il y a une métaphore très jolie dans le roman. Au début du roman, il apparaît que Miguel a peur de voler, de monter dans les avions. Et Elena, elle ne sait pas nager, elle a peur de l'eau. Quand le voyage se termine, Miguel a appris à Elena à nager. Et Elena a appris à Miguel à voler. Ils se sont donnés l'un à l'autre ce qui leur manquait. C'est l'expression parfaite de ce qu'est l'amour.
Oui. Et avec un regard bienveillant sur l'autre, sur celui qui est différent.
Parce que, bien sûr, parce que ce qui enrichit Miguel, c'est ce qui lui manque. Et ce qui enrichit Elena, c'est ce qui lui manque aussi. Il y a une image dans la troisième partie du roman qui le résume bien. Ces deux personnes qui commencent par se détester deviennent ensuite amis et ensuite amants. Et quand ils sont amants, ils se voient nus physiquement. Et Miguel pleure.
Et Elena qui se...
Et Elena qui est très cynique lui dit que c'est pas une raison pour pleurer.
Qui a de l'humour, elle a de l'humour.
Alors,
et Miguel lui dit une chose très importante. Je pleure parce que je viens de découvrir ce qu'est l'amour. Et je sais que dans deux ans, je ne m'en souviendrai plus.
Parce qu'il a un début d'Alzheimer.
Moi, je m'en souviendrai.
Et Elena lui dit, je serai ta mémoire.
Oui, je serai ta mémoire, ouais. C'est ça. Je me souviens bien de ce passage. Alors, la dernière partie de votre ouvrage, c'est quand même un roman noir. Il y a une action policière. Parce qu'on va se retrouver à Malmö. Alors, je dois dire à nos auditeurs que nous avons voyagé dans le temps, mais dans l'espace également, puisqu'on était au Maroc, dans un endroit magnifique, Tanger, enfin les abords de Tanger. On a été bien entendu en Espagne, à Madrid, à Barcelone, que vous connaissez bien tous les deux. Et puis, on arrive à Malmö. Alors là, c'est improbable pour moi, la Suède, que je ne connais pas. Et effectivement, on a tous des clichés. La Suède, c'est clean, c'est rigoureux, c'est la législation appliquée, etc. Mais vous, vous la décrivez totalement autrement.
Claro, porque me encanta romper.
Parce que j'adore rompre les clichés.
Oui, mais parce que c'est aussi la vérité. Il y a partout où qu'on aille des pourvoyeurs de drogue, par exemple.
Además, los escritores.
En outre, les écrivains de romans noirs de nordique du Nord, oui.
No saben matar.
Ils ne savent pas tuer.
Y yo les he explicado.
Et lui, il leur a expliqué comment il faut faire pour tuer. Amener ce regard méditerranéen à cette société supposée parfaite. Alors qu'en réalité, ce sont des sociétés remplies de peur, où il y a un racisme exacerbé, important, où l'extrême droite a construit son discours politique, et toujours il parle de la frontière du Sud, mais on ne parle jamais de la frontière du Nord.
Qu'est-ce que vous voulez dire par frontière du Nord?
Cette histoire de frontières, de murs qu'il faut construire pour ne pas laisser rentrer ceux qui viennent de l'extérieur. Et au final, ça ne fait que montrer les peureux que nous sommes.
Oui, vous nous dites que c'est une société hypocrite, finalement. Oui.
Ouais. Ce n'est pas une société hypocrite, c'est une société absurde. Parce que prétendre retenir les miettes, c'est ridicule.
Voilà.
On ne peut pas continuer comme dans une société refermée sur soi-même. Parce qu'au XXIe siècle, le genre humain se mélange, s'interrelationne, voilà, il y a des échanges. Et je déteste cette idée de l'Europe comme étant une forteresse. Et Malmö, c'est certainement le paradigme de cette contradiction. La Suède est sûrement un des pays les plus riches d'Europe. Et au centre de Malmö, qui est une cité portuaire, il y a un ghetto, Rosengård.
donde la gente
où les gens de l'extérieur ne rentrent pas et les gens de l'intérieur de ce ghetto ne sortent pas. Et dans ce ghetto naît Yasmina, un des personnages de la, du roman, oui, et qui pour lui représente la nouvelle Europe.
Oui, mais c'est là où on voit aussi que même dans ces pays, le sort de certaines femmes est abominable, très, très dur.
Le sort des femmes est abominable partout.
Oui, je crois. Mais vous parlez d'hypocrisie, de magouille, mais aussi, quand même, on voit la solidité d'une institution démocratique, malgré tout, à Malmö, puisque en la personne de cette inspectrice de police, cette femme. Mmh. Hein? Bon, on essaie de regarder ce qui va aussi.
Mais bien sûr, parce que à la fin, il faut quand même que l'on croit en quelque chose.
Et
dans les systèmes répressifs des États, il y a des gens. Voilà, la patrie, tout ça, c'est un ensemble de personnes qui le constituent.
Ce
n'est pas abstrait.
Bien sûr.
C'est les gens qui le font.
Et
c'est les gens, avec leurs actions, leurs comportements, qui construisent la société dans laquelle nous sommes. Cette inspectrice suédoise, elle se bat pour ce à quoi elle croit. Et elle croit que la Suède, au sens de l'Europe, doit être où la justice et la loi se ressemblent.
Ouais. Voilà, on ne va pas parler de cette enquête policière. On parle jamais, on ne peut jamais en parler, hein, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, la narration est formidablement maîtrisée. Alors tout s'imbrique, les personnages, les situations, et peu à peu, les fils se dénouent. Et c'est vrai que c'est un livre important, épais, il y a beaucoup de personnages, mais on suit ça formidablement. Un grand merci. Alors, une dernière question. Si on ne peut pas réparer les fautes, les erreurs commises, si on ne peut pas revenir sur nos défaites, nos échecs, est-ce que l'idée de rédemption, au sens large du terme, ce ne serait pas justement de prendre conscience de nos erreurs,
les accepter? Mais évidemment, pour les accepter, il faut en avoir conscience. Bien sûr. Une personne ne peut pas être soignée si elle n'admet pas qu'elle est malade. Et une société ne peut pas changer si elle n'admet pas qu'elle est malade.
Un grand merci, Victor Del Árbol, pour votre ouvrage. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de Par-delà la pluie, paru aux éditions Actes Sud. Merci à Alain Filola d'avoir été l'interprète talentueux, mais franco-catalan, franco-espagnol.
Franco-espagnol, oui. Oui. Voilà. C'était un moment de grand plaisir.
L'espagnol.
Merci.
Merci, au revoir à tous les deux.